Chapitre 9. Le rejet des œuvres de Christ. Le chapitre 8 a placé devant nous le témoignage des paroles du Seigneur. Il disait au monde les choses qu'il avait entendues du Père. Chapitre 8, versets 25 à 28. Le chapitre 9 présente le témoignage de ses œuvres. De même qu'auparavant il avait dit les paroles du Père, il déclare maintenant « Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Verset 4. Non seulement le Seigneur apporte la lumière dans le monde, révélant le cœur de Dieu, mais il agit aussi en grâce afin d'ouvrir les yeux aveugles et leur permettre de discerner la vérité. Ainsi, l'aveugle ne recouvre pas seulement la vue naturelle, mais il reçoit une vision spirituelle afin de voir la gloire du Fils en tant qu'envoyé par le Père. De plus, le chapitre montre la manière selon laquelle le Seigneur délivrait ses brebis de la bergerie juive afin de les introduire dans le salut et la liberté du christianisme. Enfin, nous voyons dans ce passage que le système judaïque est mis de côté comme étant plongé dans la cécité spirituelle. Le grand thème du chapitre 9 est donc l'œuvre du Seigneur par laquelle il ouvre les yeux aveugles afin qu'ils voient la gloire de sa personne. Il fait ainsi sortir les âmes des ténèbres du judaïsme afin de les préparer pour la position chrétienne qui est présentée au chapitre suivant, dans le seul berger et le seul troupeau. Dans le chapitre précédent, les juifs religieux avaient entièrement rejeté les paroles de Christ. Ils l'avaient accusé d'avoir un démon et avaient pris des pierres pour les jeter contre lui. En conséquence, il sort de leur temple, passant au travers d'eux et s'en va. Au chapitre 9, nous voyons que lorsqu'il se sépare de la nation en jugement, il appelle en grâce ses propres brebis. Versets 1 à 12. Citation de l'Écriture. Et comme il passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, disant : Rabbi, qui a péché ? Celui-ci ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit : Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit ces choses, il cracha en terre et fit de la boue de son crachat, et mit la boue comme un onguent sur ses yeux. Et lui dit : Va et lave-toi au réservoir de Siloé, ce qui est interprété « envoyé ». Il s'en alla donc et se lava et revint voyant. Les voisins donc et ceux qui, l'ayant vu auparavant, savaient qu'il était mendiant, dirent « N'est-ce pas celui qui était assis et qui mendiait ? » Quelques-uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Lui dit « C'est moi-même. » Ils lui dirent donc « Comment ont été ouverts tes yeux ?» Il répondit et dit « Un homme, appelé Jésus, fit de la boue et oignit mes yeux et me dit « Va à Siloé, lave-toi. » Et je m'en suis allé et je me suis lavé et j'ai vu. Ils lui dirent donc « Où est cet homme ?» Il dit « Je ne sais. » Fin de citation. Ainsi, au moment où Jésus quitte la maison, il bénit un pauvre homme, le conduisant de la cécité à la foi et de la mendicité à l'adoration. Comme toujours dans cet évangile, la souveraineté de la grâce est mise en évidence. Dans l'évangile selon Luc, la femme vient à Christ dans la maison de Simon. Dans celui qui nous occupe, le Seigneur s'approche de la femme auprès de la fontaine. En Luc, le paralytique est amené à Christ. En Jean, le Seigneur se rend auprès de l'infirme au réservoir. De même, l'aveugle de Luc crie au Seigneur. Ici, le Seigneur vient au-devant de l'homme aveugle. Par l'évangile selon Luc, nous apprenons que tous les pécheurs dans le besoin sont invités à venir à Christ. Jean nous présente une vérité encore plus élevée, à savoir que Dieu s'est approché des pécheurs dans la personne de son Fils, pour dire qu'il nous aime. Avec leurs préjugés de juifs, les disciples pensaient que la cécité devait avoir été infligée par anticipation pour un péché prévu par Dieu ou comme résultat du péché des parents de cet homme. Dans sa réponse, le Seigneur montre que Dieu peut se servir de l'affliction pour manifester ses œuvres. Une maladie à vie ne résulte pas nécessairement d'un péché spécifique. Elle peut être permise pour révéler la grâce de Dieu. Si l'état de l'homme fournissait une occasion de manifester les œuvres de Dieu, le Seigneur était là pour les faire. C'était le jour de sa présence dans le monde en grâce active. La nuit de son absence venait en laquelle personne ne peut travailler. Tant que Christ se trouvait dans le monde, il était la lumière du monde, et pendant sa vie ici-bas, il fallait qu'il travaille, car l'amour ne pouvait pas se reposer là où il trouvait la peine. La lumière ne pouvait pas se reposer en présence du péché. Quand Christ sera parti, et jusqu'à son retour, tout sera terminé pour le monde. Certes, en conséquence de sa mort et de son ascension, un témoignage est rendu au monde et la grâce de Dieu est proclamée. Toutefois, ce témoignage appelle un peuple hors du monde pour une bénédiction céleste. En aucun cas, il ne soulage le monde de ses peines. Cet aspect-là de son travail caractérisera le millénium. Personne ne peut travailler pendant la nuit du rejet de Christ. Après avoir expliqué le vrai caractère du moment, ainsi que sa position et son œuvre dans le monde, le Seigneur va ouvrir les yeux de l'aveugle. Il le fait d'une manière qui met en évidence la gloire de sa personne. Le crachat parle de l'efficacité venant de lui-même. La terre présente en image l'humanité qu'il a prise. Recouvrir les yeux de l'aveugle avec la boue, la terre et le crachat, devait naturellement empêcher la vue. Ainsi, l'homme déchu s'est servi de l'humanité que le Seigneur avait revêtue pour nier sa divinité comme fils de Dieu. L'humble grâce de son humanité était une pierre d'achoppement pour ces Juifs. La foi qui discernait en cet homme abaissé l'envoyé du Père surmontait une telle difficulté. Dès le moment où cette vérité est rattachée à sa personne, tout est clair. Aussi, le Seigneur dit-il à l'homme, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », ce qui est interprété « envoyé ». Croyant les paroles du Seigneur, celui-ci s'en alla, se lava et revint voyant. L'homme recouvra en effet la vue naturelle, mais d'une manière qui révèle l'œuvre du Seigneur comme le Fils envoyé par le Père afin de donner la vue spirituelle. Pécheur misérable, quand nous discernons par la foi que cet homme humble et béni est une personne divine envoyée par le Père pour sauver et bénir un être perdu, tout se clarifie. Les yeux s'ouvrent et nous voyons la grâce qui est venue à nous pour répondre à nos besoins. Galates 4, verset 4. Les versets qui suivent présentent le résultat de la confession de Christ comme l'envoyé de Dieu d'une part et, d'autre part, la conséquence solennelle du rejet de ses œuvres. L'homme, dont les yeux ont été ouverts, confesse hardiment Christ, avec un double résultat. Plus il confesse la vérité qu'il connaît, plus il croit dans la connaissance de Christ. Et plus il vit selon la lumière qu'il a acquise, moins il est toléré dans le monde religieux. Tandis que l'homme progresse toujours plus dans la lumière, ceux qui rejettent Christ s'enfoncent dans des ténèbres de plus en plus profondes. Il y a ainsi conflit entre la lumière et les ténèbres. Plus le témoignage de l'homme à Christ est clair, plus forte est l'opposition qu'il doit rencontrer de la part de ceux à qui la lumière est insupportable. Si l'homme dont les yeux ont été ouverts parle de celui par qui il a reçu la bénédiction, il est contré par le monde sous toutes ses formes, que ce soit le cercle social, religieux ou de sa maison. Il a d'abord affaire au monde social, les voisins. Il voit le changement en l'homme et demande comment il s'est produit. La réponse est simple et très belle. Un homme appelé Jésus lui a ouvert les yeux. Cette confession lui vaut de ne plus être désiré dans le cercle social. Les voisins l'amènent aux pharisiens comme une personne mieux adaptée au cercle religieux. Versets 13 à 23. Citation de l'Écriture. Ils amenèrent aux pharisiens celui qui auparavant avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus fit la boue et qu'il ouvrit ses yeux. Les pharisiens donc aussi lui demandèrent encore comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a mis de la boue sur mes yeux, et je me suis lavé, et je vois. » Quelques-uns donc d'entre les pharisiens dirent, « Cet homme n'est pas de Dieu, car il ne garde pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Il y avait donc de la division entre eux. Ils disent donc encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Et il dit, « C'est un prophète. » Les Juifs donc ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue. Et ils les interrogèrent, disant, « Celui-ci est-il votre fils, que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents leur répondirent et dirent, « Nous savons que celui-ci est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas, nous. Il a de l'âge, interrogez-le, il parlera de ce qu'il concerne. » Ses parents dirent ces choses parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un le confessait comme le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le. » Fin de citation. Ne pouvant pas nier le fait que les yeux de l'homme ont été ouverts par Jésus, les pharisiens religieux soulèvent des objections parce que le miracle a été opéré un jour de sabbat. La guérison de l'aveugle constituait une preuve évidente que Jésus était de Dieu, sans aucun sentiment de leur propre misère et jugeant de Christ d'après leurs préjugés religieux. Les pharisiens raisonnent, estimant que Jésus ne peut pas être de Dieu parce qu'il ne garde pas le sabbat. Certains se risquent pourtant à élever une faible protestation. Ils demandent à juste titre « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Ayant déjà confessé que Christ est un homme appelé Jésus, l'aveugle guéri au bénéfice d'une plus grande lumière et avec plus de hardiesse affirme maintenant qu'il est un prophète. Celui qui vient de Dieu, avec la pensée de Dieu et la puissance de Dieu. Non convaincus et incrédules, les Juifs se tournent alors vers les parents, espérant apprendre d'eux quelque chose qui leur permette d'éluder la vérité. Tout le monde est déterminé à rejeter Christ, mais personne ne peut nier le fait que les yeux de l'homme ont été ouverts. Ainsi, chacun des cercles pose la question « Comment l'homme a-t-il recouvré la vue ? » Versets 10, 15, 19 et 26. Ils cherchent tous à expliquer la guérison de l'homme par quelque intervention autre que l'opération de Christ. Les parents doivent témoigner que l'homme est leur fils, qu'il est né aveugle et que maintenant il voit. Ils refusent de donner leur opinion sur la manière dont il a recouvré la vue. Ils déclinent toute responsabilité quant à leur fils, il a de l'âge. Ils n'ont pas l'intention de compromettre leur réputation religieuse dans la synagogue en étant identifiés avec un homme qui confesse Jésus, même s'il s'agit de leur fils. Versets 24 à 34. Citation de l'Écriture. Ils appelèrent donc, pour la seconde fois, l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit donc, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Et ils lui dirent encore, « Que t'a-t-il fait ? Comment a-t-il ouvert tes yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous encore l'entendre ? Voulez-vous aussi, vous, devenir ses disciples ? » Ils l'injurièrent et dirent, « Toi, tu es le disciple de celui-là, mais nous, nous sommes disciples de Moïse. Pour nous, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais pour celui-ci, nous ne savons d'où il est. » L'homme répondit et leur dit, En ceci pourtant, il y a une chose étrange, que vous ne sachiez pas d'où il est. Et il a ouvert mes yeux. Or, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est pieux envers Dieu et fait sa volonté, celui-là il l'écoute. Jamais on ouït dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répondirent et lui dirent, « Tu es entièrement né dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent dehors. Fin de citation. N'ayant obtenu aucune aide des parents, les Juifs se tournent pour la seconde fois vers l'homme. Ils ne peuvent pas nier le miracle. Ils ne veulent pas reconnaître Jésus. Par conséquent, ils se replient sur leur autorité religieuse et demandent à l'homme de donner gloire à Dieu. Ils ne tiennent absolument aucun compte de Christ. En effet, ils osent déclarer « Nous savons que cet homme est un pécheur ». L'homme refuse de se laisser entraîner dans une discussion portant sur le caractère du Seigneur, mais il réaffirme ce qu'il sait et qu'eux ne pouvaient nier, à savoir qu'il était aveugle et que maintenant il voyait. Ne pouvant pas démentir cette simple constatation d'un fait, il recourt aux injures. Ils insultent l'homme, lui reprochant d'être le disciple de Christ, et ils déclarent être eux-mêmes disciples de Moïse. Quant à Jésus, ils disent avec mépris de lui qu'ils ne savent d'où il est. Ayant eu les yeux ouverts, le mendiant peut entrer plus loin dans la vérité quant à la personne de Christ que ces hommes professant être les disciples de Moïse. Il exprime sa surprise face à l'ignorance et la stupidité de leur incrédulité. Jamais depuis le commencement du monde un tel miracle n'avait été accompli, et pourtant ils affirmaient que celui qui avait opéré cette grande œuvre était un pécheur. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ainsi, l'homme est conduit par une foi simple à confesser que Jésus est de Dieu. À chaque confession, la haine de la classe religieuse officielle a augmenté. Maintenant, enfin, incapable de contrer le franc témoignage de l'homme, il l'insulte en prétendant qu'il avait porté dès sa naissance la marque du péché sur son visage, ce que le Seigneur avait condamné comme faux au verset 3. Les Juifs ne peuvent pas nier l'évidence du miracle, quand bien même leur haine de Christ les amène à faire tous leurs efforts pour déprécier son œuvre. Les arguments de l'homme sont incontestables, mais leur orgueil religieux les conduit à refuser de se laisser enseigner la vérité par une personne simple et illettré. Il recourt aux injures et finalement, il le chasse dehors. Versets 35 à 41. Citation de l'Écriture. Jésus apprit qu'il l'avait chassé dehors et l'ayant trouvé, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit et dit « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit « Es-tu l'as vu ? Et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il lui rendit hommage. Et Jésus dit, « Moi, je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient, deviennent aveugles. » Et quelques-uns d'entre les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces choses et lui dirent, « Et nous, sommes-nous aussi aveugles ?» Jésus leur dit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, « Nous voyons, votre péché demeure. » Fin de citation. Être chassé du judaïsme religieux corrompu pour avoir confessé Christ, c'était être jeté dans la compagnie du Fils de Dieu. Le Seigneur avait trouvé l'homme dans son état de cécité pour lui donner la vue. Il le trouve maintenant dans sa solitude afin de lui offrir la compagnie glorieuse du Fils de Dieu. Le Seigneur gagne la confiance de l'homme et ensuite il se révèle, non seulement comme un prophète, mais comme le Fils de Dieu. S'il avait été seulement un homme ou un prophète, il ne serait pas un objet d'adoration. Comme Fils de Dieu, il est une personne divine, le juste objet de la foi et de l'adoration. Aussi lisons-nous que l'homme dont les yeux avaient été ouverts lui rendit hommage. De quelle manière bénie et douce cet homme a été amené à la lumière par sa confession de Christ. D'abord, il reconnaît que Christ est un homme appelé Jésus. Verset 11. Puis, ayant plus de lumière, il affirme qu'il est un prophète. Verset 17. Plus tard, lorsque les Juifs condamnent Christ, il confesse hardiment que le Christ est de Dieu. Verset 33. Enfin, en présence de Jésus, il entre dans la pleine lumière et reconnaît Christ comme le Seigneur, et lui rend hommage comme le Fils de Dieu. Versets 36 à 38. Ainsi, de la cécité et de la mendicité, l'homme est amené à la foi et à l'adoration. Il passe des ténèbres d'une religion corrompue à la lumière et à la bénédiction de la compagnie du Fils de Dieu. L'homme est délivré des faux bergers d'Israël, et le bon berger trouve sa brebis. Dans les derniers versets, la condition solennelle de ceux qui rejettent la lumière est mise en contraste avec la bénédiction de l'homme dont l'âme enténébrée avait reçu la lumière. À cause de la perversité de l'homme, la venue de Christ dans le monde a pour effet d'amener le jugement sur ceux qui le rejettent. Toutefois, il vient en grâce afin que ceux qui ne voient pas, qui reconnaissent qu'ils sont aveugles, voient. Mais quant à ceux qui professent avoir la lumière et qui le rejettent, sa venue les rendrait aveugles. Satisfaits de leur propre religion et sans conscience de leurs besoins en tant que pécheurs, ils ont trébuché et sont tombés devant l'humble grâce de son humanité. Ils n'ont pas vu sa déité, qu'il était le Fils de Dieu envoyé par le Père. Piqués par les paroles du Seigneur, les pharisiens demandent « Et nous, sommes-nous aussi aveugles ?» Dans sa réponse, le Seigneur les avertit qu'ils se condamnaient en professant voir. Car, tout en affirmant qu'ils voyaient, ils rejetaient de propos délibérés l'envoyé du Père. Ils ne voulaient ni entendre ses paroles, ni être enseignés par ses œuvres. Rejeter délibérément Christ, tout en professant voir, constitue un péché qui demeure sur eux et qui a plongé la nation dans les ténèbres. Ils n'en sortiront que lorsque, par la grande tribulation, un résidu sera amené à la lumière. De même, la chrétienté corrompue est en train de s'enfoncer dans les ténèbres, car, tout en se vantant de sa lumière et de ses richesses, elle laisse Christ derrière la porte.